santé mentale en question.
La santé mentale en question.
On souffre, on a mal, psychologiquement.
On peut plus voyager dans sa tête.
Parce qu'on a envie de s'en sortir, de reprendre confiance en moi.
Les gens ressentent une souffrance et en fait cette souffrance c'est quoi?
Que représente le handicap psychique?
And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love.
Dans le handicap, on a perdu quelque chose, mais en même temps, il y a plus d'authenticité dans l'échange.
On leur dit « vous allez mal parce que vous n'aimez pas l'image que vous avez de vous-même ».
La santé mentale en question, Anne Voileau, bonjour. C'est Claire Leroy Atala qui va nous parler du colloque « L'entreprise face aux troubles psychiques » qui aura lieu le 29 avril prochain à Sciences Po. Un sujet passionnant et nouveau, comment l'entreprise peut-elle aborder la question de la santé mentale? Restez sur Vivre FM pour en savoir plus. J'ai le plaisir de recevoir Claire Leroy Atala. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà venue à notre micro, puisque pour des tas de raisons d'ailleurs, parce que on a travaillé ensemble. Mais là, aujourd'hui, vous êtes spécifiquement venue pour parler de l'entreprise face aux troubles psychiques, qui est un colloque qui va avoir le 29 avril prochain. Donc, vous allez nous en dire un peu plus longtemps, puis après, on reviendra un peu quand même sur votre parcours, parce que c'est intéressant.
Alors oui, juste en deux mots, c'est une rencontre un peu exceptionnel pour les partenaires qu'elle réunit, puisqu'en fait c'est un colloque organisé par l'Agence Entreprise et Handicap en collaboration avec Sciences Po et la Fondation de France qui fête ses 40 ans cette année. Et à cette occasion, elle a choisi de mettre un petit peu la lumière sur 4 événements, dont celui-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi cette thématique-là parce que, en fait, ils avaient énormément de remontées, et notamment, je crois, par la revue et la radio, qui leur disaient qu'il y a une vraie problématique autour de l'insertion professionnelle des personnes relevant de la santé mentale, handicapées psychiques, ayant des troubles psychiques, alors qu'eux, ils s'occupaient plutôt de l'aspect maladie et pas forcément du volet insertion professionnelle. Du coup, ils nous ont choisi d'être partenaires sur cette thématique-là. Donc ça a lieu le 29 avril dans le grand amphi de Sciences Po, l'amphi Boutmy. Je sais pas si vous voyez, là, il vient d'être refait, il est magnifique. Il donne sur le jardin, c'est très agréable.
Alors là, vous faites envie, mais tout le monde peut venir,
tout le monde peut s'inscrire. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site santémentaleetemploi.org, excusez-moi.
Tout attaché
sans accent. C'est gratuit, il n'y a pas de la place pour tout le monde pour le déjeuner, donc il faut vite s'inscrire. Il va y avoir un déjeuner offert par la Banque de France qui a lieu au dernier étage de Sciences Po, qui est avec une vue sur les toits du 7e arrondissement. C'est aussi agréable. C'est une journée complète qui sera intense en intervenants, mais à mon avis d'une richesse assez riche et exceptionnelle. Je tenais à noter que ce qui était, il me semble qu'on sent un mouvement de fond.
Oui, parce que faut dire que la revue là, on
voilà,
fait
exactement,
notre centième
ça
numéro.
S'inscrit bien dans le prolongement d'autres événements, et je pense aussi qu'il y en aura par la suite autour de ces questions-là. Bah,
depuis 2 ans, ça.
Exactement.
Un peu. Le premier qui a fait le coup d'envoi et qui a surpris, c'était le ministère de la Justice, qui avait carrément appelé santé mentale et emploi.
Tout à fait.
Les gens s'étaient vraiment posé des questions. Mais il y a longtemps qu'on attendait ça, Claire, hein, je pense.
Oui, hein, c'est assez, enfin, moi, pour le coup, pour avoir travaillé depuis plusieurs années sur cette thématique-là, c'est assez satisfaisant de voir qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Après, nous, on est très, très humbles sur ce colloque. Dans la mesure où on ne prétend pas du tout apporter des réponses à toutes les questions qu'on se pose.
Oui, vous seriez bien les premiers si vous le faisiez.
Voilà, exactement. L'idée, c'est de dire qu'il faut autoriser encore plus les entreprises à admettre que dans leur population salariée, dans leur politique du handicap, c'est une vraie problématique à part entière, c'est une vraie question à part entière, à la fois dans le cadre du maintien dans l'emploi, mais aussi dans l'accueil des travailleurs handicapés. Ils disent souvent ne pas savoir bien le faire.
Alors, en sachant quand même, j'insiste toujours beaucoup, qu'il y a une énorme différence entre embaucher quelqu'un qui est stabilisé et maintenir quelqu'un qui est en train de dériver.
Et ce sont des problématiques très différentes et qui sont toutes les deux extrêmement compliquées. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit hein, dans l'entreprise. Et l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on s'autorise à parler librement de nos questionnements, de nos faiblesses, de nos freins.
De réussite aussi.
Oui, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que souvent elles ont un peu peur de dire leur réussite, alors que il y a pas de honte.
Bah, une
pas
fois que c'est réussi, je crois que c'est comme au journal, on n'appelle pas quand ça va bien. Donc
exactement.
Quand c'est réussi, on n'en parle pas.
On n'en parle pas du tout, alors qu'il y a énormément de choses qui se font localement, mais qui existent. Et l'idée, c'est de se dire. On a le droit d'en parler tous ensemble. Ça a le droit d'être valorisé, comme on a le droit de dire parfois c'est problématique. Et par contre, il faut qu'on progresse dans tous les sens du terme. Et donc, autorisons-nous largement à réfléchir ensemble.
Donc, c'est déjà un beau programme quand même.
C'est déjà un beau programme.
Oui, parce que c'est vrai que les personnes, vous avez vu à la revue qu'on place, nous, qui relèvent des troubles psychiques, mais qu'on a placé en entreprise, on n'en parle plus une fois que ça marche. On ne parle que de ceux s'ils ont des problèmes. Quand ça marche, on n'en parle
exactement,
plus.
Exactement. Et en plus, on s'aperçoit que l'entreprise, elle a vraiment la mémoire de ce qui ne fonctionne pas pendant
pas
de longues années. Et pas du tout la mémoire de ce qui fonctionne bien. Et même, elles arrivent même pas à le percevoir quelquefois, de se dire, mais si, on est capable de faire des choses. Elles sont toujours souvent, je trouve, sur le mode de la culpabilité. Alors que je pense qu'en plus, sur ce thème-là, personne ne peut prétendre savoir parfaitement s'y prendre. Donc, dans certains cas, au contraire, elles auraient tout intérêt à pouvoir exprimer aussi leur réussite.
Mais je pense aussi que c'est plus facile. Vous embauchez une personne qui est en fauteuil 10 ans après, à part un miracle à Lourdes, elle sera malheureusement toujours en fauteuil. Mm-hmm. Donc vous allez pouvoir dire, regardez, la personne est enfin... Une personne qui a un haut niveau, qui a eu des troubles psychiques et qui est stabilisée, 3 ans après, vous savez plus qu'elle est passée par la reconnaissance travailleur handicapé. Donc effectivement, les gens, quand vous leur dites, mais cette personne, vous rappelez, vous l'avez pris il y a 5 ou 6 ans. Mm-hmm. Ah bah oui.
Oui.
Mais c'est plus difficile de se souvenir quand même.
Exactement. Et c'est moins valorisable, entre guillemets, parce que c'est moins visible.
Je crois qu'on s'en souvient pas.
Alors qu'il y aurait... il nous semble, hein, et c'est vraiment tout l'esprit du colloque, c'est non seulement une richesse d'avoir fait la démarche, et en plus on s'aperçoit qu'en effet dans le temps ça se fond
complètement. Et puis si un chef de service change, plus personne sait qu'elle est rentrée.
Exactement. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est il nous semble, c'est que ça aide l'entreprise à progresser. C'est-à-dire que finalement, par cette fenêtre de l'accueil d'une personne, de l'intégration d'une personne qui a des troubles psychiques, ça invite à s'interroger sur l'organisation du travail en règle générale. Et on s'aperçoit que finalement, à partir d'un cas individuel, on va aller regarder la façon dont l'entreprise prend en compte les besoins individuels, est capable d'assouplir ses procédures, ses aménagements de poste et d'horaire, et que finalement ça va peut-être la faire bouger un petit peu sur son organisation, ses attentes vis-à-vis de la personne, et que c'est peut-être l'expression la plus forte de la diversité, de la capacité de l'entreprise à être dans la diversité, c'est-à-dire être capable de se dire, chaque salarié qui vient dans mon entreprise, pour qu'elle soit le mieux dans son travail, donc qu'elle soit le plus efficace et la plus participante, il faut que je puisse répondre le plus proche de ses besoins individuels. Et du coup, ça invite l'entreprise à ne plus concevoir ses salariés comme des hommes de 30 ans, célibataires, en bon, pleine forme. voilà, à se dire qu'ils sont pas tous comme ça. Il nous semble que voilà, c'est cette problématique autour du handicap psychique et des personnes relevant de la santé mentale, elle invite à cette réflexion.
Pour résumer un peu, qui peut le plus peut le moins. Donc à part
oui.
De nous, on peut vraiment.
Et puis se dire que c'est profitable pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit tous que je vais pas reprendre l'exemple de la télécommande, mais je pense que dans l'entreprise, on s'aperçoit que souvent l'entreprise a des règles et un cadre extrêmement rigide qui correspond à peu de salariés finalement. Alors tout le monde s'adapte, mais à quel prix, jusqu'où ça tient, voilà.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'après ils se retrouvent des gens en dérive.
Exactement.
Qui sont pas forcément
et on peut tout à fait espérer que si on est capable de mieux prendre en compte les besoins individuels des personnes handicapées psychiques, par exemple, on sera aussi capable de mieux prévenir toutes les personnes qui deviennent malades, stressées, fragilisées, parce que l'organisation, l'entreprise aussi fait pression sur elle.
Et pas seulement ça, parce que dans un service, une personne qui a été embauchée avec un handicap psychique mais qui est stabilisée, c'est un très bon baromètre. Souvent, c'est elle qui dit attention, cette Exactement. Personne va pas bien, et elle sait ce que c'est et elle prévient bien à l'avance.
Je te rejoins tout à fait sur cette dimension-là, c'est un indicateur
c'est
en
un
fait
indicateur,
que tout le monde va pas bien s'il y a quelqu'un qui
et elle
qui
peut
est
le
pas
dire
bien.
Et elle va reconnaître chez l'autre un trouble qui sera pas reconnu par les autres.
Et on sent qu'il y a une fragilité là qui émerge et donc il faut créer de l'attention.
Tout à fait.
C'est vraiment...
Et ça serait bien pour tout le monde de l'écoute et de l'attention.
Exactement.
Je crois que tout le monde en rêve.
Marianne Manchot parle souvent de là en ce moment. Elle dit on est dans des entreprises de plus en plus violentes. Et on en voit l'expression même là dans les mouvements, les séquestrations des directions, les craintes énormes des salariés face aux plans sociaux. Et c'est vrai qu'on est dans des entreprises qui, pour certains aspects, il y a une vraie question de la violence et toute la problématique autour des personnes et des salariés qui ont des troubles psychiques. Je pense peut engager l'entreprise justement à revoir toute la violence qui émerge de l'organisation et peut-être d'adoucir et d'apaiser un peu les esprits.
Ça serait bien, c'est un vœu pieux, ça serait bien, mais pourquoi pas, je pense qu'il faut déjà essayer. Donc c'est sur ce quoi le colloque voudrait débattre un peu aussi.
Voilà, exactement. L'idée c'est vraiment ça c'est la problématique générale qui nous a guidés pour faire cette journée-là de travail. Nous allons aborder 4 thématiques un peu plus précises.
Je crois qu'on va faire une pause musicale puis on va aborder 4 thématiques après.
Très bien.
Claire Leroy-Attala, vous êtes là pour nous parler du colloque du 29 avril prochain qui s'appelle l'entreprise face aux troubles psychiques. Et vous étiez juste avant la pause en train de nous dire qu'il y avait 4 phases dans ce colloque. Donc je vous ai interrompu parce que bon, et là, allez-y.
Alors il y a 4 temps donc qui ont été préparés en amont. En fait, le travail qu'on a fait, ça a été de réunir beaucoup d'acteurs du champ de la santé mentale, de l'entreprise, de la santé tout court, du handicap, et de les faire travailler ensemble sur 4 thématiques, qui sont les 4 thématiques qui ont été retenues pour la journée du 29. Donc, on a fait 2 réunions, où donc en tout, presque 50 personnes se sont réunies, et puis on a désigné les personnes qui interviendraient le jour du 29. Donc, il y a eu un gros travail en amont, parce que la volonté, c'était que, c'est un peu une banalité, hein, mais ce qu'on observe sur ces questions-là, c'est que il y a un cloisonnement entre le champ de l'entreprise, le champ du médico-social, le champ du soin, et que personne se connaît. Pourtant, quand on est face à l'accompagnement d'un salarié, il faut que l'on puisse répondre à des besoins qui sont d'ordre très divers. Et on connaît mal les interlocuteurs et donc souvent on laisse la personne dans l'errance au lieu d'assurer un accompagnement.
Parce qu'on sait pas exactement où l'envoyer en premier.
Exactement. Et pas par mauvaise volonté.
Ah non, non. C'est, on
quelquefois
sait pas,
juste
pas.
On ne sait pas vers qui se tourner.
Et puis d'ailleurs quel est le bon interlocuteur à un moment donné. C'est
voilà.
Un moment T. C'est pas forcément le même pour une autre personne.
Tout à fait. Donc l'idée c'était que on puisse favoriser cette rencontre là. Et donc on a construit la journée. Où sur une même journée, il fallait que l'entreprise, les médecins.
Alors vos phases, il y a l'entreprise.
Alors c'est pas non. Par phase, c'est-à-dire sur chaque thématique.
Ouais, c'est par thème. Alors
voilà.
Il y a l'entreprise.
Il y a les entreprises, ouais. Les médecins du travail.
Très important. Ils
les
sont très
professionnels
demandeurs.
Du handicap aussi. Des chercheurs en sociologie, en psychiatrie, de la médecine conseil, et puis des psychologues.
Donc après, le professionnel du handicap, ça fait partie de la troisième phase.
Oui, professionnel du handicap, je pense au Cap Emploi,
voilà, ouais.
À la GFIP, à des personnes qui ont travaillé sur justement l'évaluation du handicap. Vous avez entendu parler, bien sûr, du travail qui a été fait par la CNSA avec le CEDIAS là-dessus. Voilà, donc des personnes qui sont plus par l'approche par le handicap et pas forcément le soin ou la santé.
Et après, c'est donc la santé plus les chercheurs, les psychiatres, les psychologues.
Voilà, d'accord. Exactement. Donc les quatre temps, donc il y a un temps qui est qui s'appelle les troubles psychiques, nouveaux enjeux pour l'entreprise responsable. L'idée, c'est de se dire, c'est une vraie question de responsabilité sociale et même, je dirais presque, de développement durable. C'est-à-dire que la première ressource de l'entreprise, c'est sa ressource humaine et qu'il faut assurer sa pérennité dans le temps et qu'elle ne peut pas l'épuiser et elle doit être capable de bien l'utiliser, entre guillemets. Donc, elle doit être capable aussi de ne pas passer à côté de toutes les richesses de l'être humain dans sa diversité et pas passer à côté de perles aussi. Donc l'idée, c'était voilà, de mettre l'entreprise face à cette responsabilité-là et de voir comment ça peut s'intégrer.
Et cette richesse aussi, c'est pas qu'une responsabilité.
Exactement. Dans son projet d'entreprise et dans une perspective d'avenir et pérenne, pardon. Et puis, il y a une deuxième thématique qui porte sur l'évaluation, l'accompagnement et la compensation. On l'a appelé un défi pour les professionnels de terrain parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est extrêmement difficile, que d'un cas à un autre, les besoins sont très différents, à la fois en termes d'accompagnement, d'aménagement. Donc, il faut être capable de faire du sur-mesure, de la haute couture.
Puis quelquefois, simplement aussi de comprendre parce que la personne n'est pas obligée de savoir comment exprimer ou même exprimer un désir.
Tout à fait. Il y a aussi la question du déni, par exemple, quand la personne ne reconnaît pas ses troubles, comment on fait pour l'accompagner?
Et même quelquefois, quand elle le reconnaît, c'est beaucoup de personnes qui essayent de se débrouiller seules, qui demandent pas souvent.
Oui, qui demandent pas d'aide, hein. C'est vrai qu'elles
ne
sont
pas souvent.
Elles ont peur de déranger.
Oui, c'est souvent les gens qui demandent le moins, en fait.
Et ce dont on s'aperçoit, c'est que par contre, on progresse sur ces questions-là. On progresse, il y a des choses qui commencent à émerger, qu'il y a quand même en termes d'accompagnement, de comment on peut se représenter la compensation. Tout ce terrain-là, il y a des travaux, des expériences, des expérimentations qui montrent que c'est pas évident. C'est sûr que c'est plus simple d'évaluer le niveau d'audition d'une personne malentendante. Mais il y a des pistes, il y a des choses qui avancent et qui évoluent. Donc l'idée, c'est de partager sur cette thématique-là et de voir aussi quand l'entreprise arrivera à bien s'approprier cette question de la compensation et de l'accompagnement, je pense qu'elle prendra confiance en elle aussi pour se dire on peut maintenir dans l'emploi, on peut intégrer, on peut accueillir des stagiaires, diversifier l'intégration des personnes handicapées psychiques ou atteintes de troubles psychiques. À chaque fois, juste pour préciser, c'est vrai qu'on dit personnes handicapées psychiques, ça ne veut pas dire que ce sont que les personnes reconnues par les MDPH pour leur handicap. En fait, c'est toutes
ça
les personnes
facile,
voilà qui ont des troubles psychiques et qui ont besoin d'être un peu aidées, accompagnées dans leur insertion professionnelle.
Et d'ailleurs, avec les problèmes de médecins du travail, je pense que si les médecins du travail étaient un peu plus formés, d'ailleurs ils le demandent, ils pourraient peut-être voir les troubles quand ils commencent et ça pourrait être quelquefois des gens n'iraient pas jusqu'à la dépression totale et on pourrait les arrêter avant.
Toutes les études montrent que plus on intervient tôt et en amont, moins la situation de santé de la personne se dégrade.
Mais il faut la voir, la situation.
Voilà. Et surtout, plus on garantit les chances d'insertion professionnelle, et puis on garantit les chances de réussite hein, et de bonne expérience. On voit que toutes les expériences que les entreprises conservent, c'est en fait des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, qui n'ont pas été identifiées comme ayant des problèmes de santé mentale.
Et elles-mêmes ne le comprenant pas d'ailleurs.
Exactement. Et du coup, on a abouti à des situations de conflit qui n'auraient pas lieu d'être si la personne avait été, on avait
oui,
pu
ou
voir.
Oui, de désespoir
avait...
ou de non-retour au travail.
Exactement. Et puis, il y a une troisième thématique qui s'appelle image et imaginaire autour des troubles psychiques. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les représentations du handicap psychique sont assez, négatives dans la majorité de la population, alors que en fait, il semblerait que ça vienne plus d'un manque d'information. Et de compréhension.
C'est un peu une question de société aussi, ça dépend dans quelle société on vit. Il y a des sociétés dans lesquelles c'est pas, c'est très...
Les représentations sont beaucoup plus positives.
En tous les cas, ça porte à la représentation. Déjà, ça porte.
Ça laisse pas indifférent. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'en France, il y a des pays, je pense, où les problèmes de santé, les questions de santé mentale sont beaucoup moins stigmatisées qu'en France. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, dans l'esprit des gens, quand on leur demande d'associer le mot maladie mentale ou handicap psychique et travail, pour eux, ça peut pas être, c'est antinomique.
Mais ça, faut dire que alors ça, y a que c'est un pas une
réalité. Voilà. Alors que c'est pas une réalité, on sait que les personnes handicapées psychiques, atteintes de troubles psychiques, travaillent.
Qui viennent voir dans la revue Être, 50% des personnels sont des anciens stagiaires handicap psychique et qui travaillent très bien.
Ça, on le voit dans les faits, mais dans les représentations des gens, on s'aperçoit que bon, c'est pas encore complètement admis. Et c'est dans cette table ronde, c'est intéressant parce qu'il y a un psychologue qui a travaillé au centre collaborateur de l'OMS, qui est à Lille, sur les questions de santé mentale. Et ils ont décortiqué toutes les campagnes de communication et de déstigmatisation qui ont été faites, notamment à l'étranger. Et donc l'idée, c'est un petit peu de les présenter, de les analyser et du coup de se poser la question, de se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour changer le regard, changer les représentations, parce qu'on voit que ces campagnes-là ont un vrai effet sur les représentations. Donc ça, je pense que ça va être... on va projeter des films aussi de ce qui existe ailleurs et des images qui sont assez surprenantes et à mon avis qui peuvent beaucoup nous apporter. Et puis la quatrième thématique, alors là, ça portera sur les coûts, les problèmes de santé mentale dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est pas le non-accompagnement, le non-traitement de la question est extrêmement coûteux pour les entreprises et la société.
Beaucoup plus que l'accompagnement.
Exactement.
Bah oui, c'est
pas étonnant. Si on regarde d'un point de vue purement financier, c'est pas du tout intéressant financièrement de ne pas se préoccuper de la question. C'est extrêmement coûteux de payer les gens en arrêt maladie, à rester chez eux, à ne rien faire. C'est un manque à gagner. Et puis, ce sont des coûts humains aussi, en termes de confiance, d'intensité de la relation. C'est vraiment, on sait que dans les entreprises, d'être capable de faire ce travail-là d'accueil ou de maintien dans l'emploi, augmente la performance d'une équipe. Globalement.
Mais remarquez, si on prenait un malvoyant et qu'on lui donne pas les outils pour faire, ça serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il pourrait pas faire son travail, il se découragerait, il arrêterait peut-être. Donc c'est un peu aussi, si on ne compense pas le handicap quel qu'il soit, c'est plus coûteux pour l'entreprise, exactement. Puisqu'il se passe rien de bien.
Exactement. Donc voilà, l'idée c'est d'interpeller en disant, attention, regardez, ça n'est pas forcément économique pour vous de se désintéresser de la question et de les faire un petit peu réagir.
Est-ce que vous avez pas l'impression que ça commence à rentrer, ça ?
Si.
La preuve, c'est que vous avez des entreprises qui viennent.
Exactement. Je pense que c'est quand même un signe que ce colloque n'aurait pas été possible il y a 2 ans.
Ça a commencé il y a 2 ans.
Ouais.
Mais au début, les entreprises ont commencé, elles avaient déjà un intérêt pour, mais il y a 2 ans, elles ont accepté de se dire qu'on pouvait faire quelque chose. Mmh. Voilà. Mais ça, quand même, la revue, il y a 17 ans, je peux vous dire qu'il y a 17 ans, quand on disait santé mentale et travail, c'est tout juste si on se faisait pas enfermer soi-même.
Je veux bien le croire.
Donc, il y a quand même un progrès.
J'en suis persuadée, que ça commence à mûrir, qu'il y a un intérêt pour la question, et puis, la crise en fait est à mon avis une opportunité en fait pour réfléchir sur les nouvelles formes d'entreprise, la façon dont on accueille réellement la diversité.
Il y a déjà un moment que il y a bien 3-4 ans là quand on travaille ensemble, c'est déjà un moment que les entreprises se posent la question, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. C'était plus il faut faire quelque chose, mais quoi.
Oui. C'est vrai que moi j'ai fait donc une thèse qui a démarré en 2003 et c'était le signe déjà, les entreprises commençaient à dire
déjà l'idée
peut faire.
De faire la thèse sur ce sujet-là.
Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est que ça venait d'elles, donc c'était quand même un signe qu'il y avait un intérêt.
Et puis qu'elles avaient envie de trouver des réponses aussi.
Oui, qu'elles avaient envie de progresser. Et puis, je pense que les entreprises ont très, très bien compris que il y a un moment où ça allait venir naturellement. C'était comme un chemin assez, assez cohérent avec les politiques du handicap qui se mettent en place, avec les nouvelles réflexions sur l'entreprise. Donc, je pense qu'elles sont tout à fait conscientes que ça va venir. Voilà, l'idée c'est de les accompagner, de les aider à mûrir et de pas les, ne pas non plus les montrer du doigt ou les culpabiliser.
Non, voilà. Ça sert à rien.
En disant pas. Voilà, vous n'y arrivez pas. Je pense que l'idée vraiment du colloque c'est beaucoup plus de se dire.
C'est une réflexion.
Comment on peut avancer quoi.
Mais de toute façon, faut bien se dire quand même que les problèmes de santé physique, on en parle depuis des milliers d'années. Le problème de la santé mentale, c'est tout neuf tout quand même. Hein, Bon, c'est vrai. Donc,
ouais, c'est un vrai. Et puis surtout par rapport à l'emploi, hein, c'est vrai.
Ah bah, déjà par rapport à la santé mentale directement, mais alors emploi, en plus à l'emploi.
Alors c'est ce que disait Marianne Monchamp. Elle disait mais il faut que la société, même en règle générale, au-delà de l'emploi, prenne conscience que toutes les questions de santé mentale sont primordiales et il faut absolument que la société s'empare de cette problématique-là parce que aujourd'hui on n'en a pas pris du tout la mesure.
On commence. Alors, c'est vrai que j'aime bien le mot santé mentale parce que dedans, on a tous une santé mentale.
Exactement.
On se retrouve tout de suite dans un instant. Claire Leroy-Attala, c'est déjà la dernière partie. Ça va très, très vite parce que, bon, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, vous êtes toujours en train de parler de l'entreprise Face aux troubles psychiques, qui est un colloque qui a lieu le 29 avril prochain à Sciences Po. Donc, vous nous avez fait une description très bien de l'amphithéâtre. On a envie d'aller non seulement au colloque, mais en plus déjeuner. Donc, faut s'inscrire.
Oui, il faut s'inscrire en ligne. Donc, c'est le site santémentaleetemploi.org. Tout en minuscules, sans accent, tout attaché, et on s'inscrit uniquement en ligne sur le site. Si jamais vous n'avez pas internet ou vous avez des difficultés pour vous inscrire, n'hésitez pas à appeler à l'agence entreprise et handicap au 01 46 34 60 51 et à ce moment-là on vous inscrira par l'agence.
Alors là donc il va y avoir on a parlé des chercheurs, des professeurs, des médecins du travail, des entreprises. Alors dans les entreprises vous avez invité les chargés de mission, des PDG, un peu de tout le monde.
Alors dans les entreprises voilà, l'idée c'est que bien sûr notre interlocuteur privilégié sont les responsables de mission handicap
qui sont présents sur le terrain
sur la question et qui sont sur le terrain et qui viendront témoigner. Donc il y a aussi des médecins du travail. Il y a Gérard Tapona qui est directeur des affaires sociales chez Manpower, qui a une bonne connaissance en tant qu'ancien DRH plusieurs entreprises et qui me semble a vraiment une bonne connaissance de toutes les questions de ressources humaines dans l'entreprise et une vision très stratégique entre guillemets et qui me paraît
il est très bien, il connaît bien son sujet, il est très ouvert, il est très bien,
très enrichissant.
Je confirme.
Et puis il y a des présidents d'entreprise qui vont ouvrir en fait les tables rondes, non pas pour dire mon entreprise est exemplaire, mais plutôt pour dire voilà, moi c'est une question qui m'intéresse, je sens que on peut progresser, je sens que ça peut m'apporter des choses, que j'ai des choses à apprendre sur cette thématique là et donc voilà, je suis attentif à cette réflexion-là et je suis parmi vous pour soutenir aussi la réflexion parce que c'est pas toujours facile d'aborder cette thématique-là dans l'entreprise. Et donc c'est de rassurer, de se dire on a le droit d'en parler dans l'entreprise.
Et c'est important pour un chargé de mission d'avoir son PDG qui en parle ou son directeur général, ça aide.
C'est extrêmement important. On sait que ça soutient énormément toute la politique du handicap de l'entreprise. Donc on est assez honorés parce que il y a 5 présidents qui ont accepté d'être là pour cette journée. Donc il y a monsieur Jean-Paul Bailly qui est président du groupe La Poste
qui a été à la RATP avant donc il connaît quand même très bien le sujet.
Exactement. Il y a Daniel Chaffret qui est président d'IBM France qui s'est beaucoup impliqué sur cette thématique là depuis son arrivée à la tête d'IBM qui a une vraie dimension globale. Du sujet, il est convaincu que c'est un plus pour l'entreprise cette démarche-là et qui donc est tout à fait attentif à cette réflexion-là. Il y a également Antoine Durleman qui est conseiller maître à la Cour des comptes et qui était ancien directeur de l'ENA.
Et puis il était aussi aux hôpitaux de Paris, donc c'est très important parce qu'il connaît bien, il a tous les côtés en fait.
Voilà, il a la dimension médicale et la dimension chef d'entreprise, et c'est ce qui nous intéressait. Hein. C'était, on les a sollicités en disant, mais vous, en tant que chef d'entreprise, au-delà de votre entreprise, à quoi ça vous renvoie, cette question-là. Et puis il y a monsieur Jean-Paul Redouin qui est le premier sous-gouverneur de la Banque de France qui font un gros travail aussi de fond là, l'entreprise.
Ils ont toujours fait la Banque de France.
Ça fait très longtemps qu'ils font des choses.
Puisqu'il y a des gens qui ont été placés il y a très longtemps déjà et ils soutiennent très bien leurs salariés.
Mais c'est vrai que là ils ont une vraie problématique, c'est que l'entreprise est en train de changer beaucoup. Les postes évoluent beaucoup, l'organisation du travail évolue beaucoup, et du coup, ça pose de nouvelles questions pour tous les salariés handicapés et toutes les personnes relevant de la santé mentale. Et je dirais donc là, il y a une vraie attention sur la politique du handicap et un vrai questionnement aussi qu'ils sont en train de mener là-dessus et pour maintenir leur politique et la pertinence de leur politique. Puis il y a Philippe Salle qui est le directeur général de Géoservices, qui est une moins grande entreprise, qui est une entreprise notamment de traitement du pétrole. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est une entreprise sur laquelle, a priori, on se dirait c'est pas facile d'embaucher chez des personnes handicapées. Et non, malgré tout, ils ont une politique et ils ont une vraie volonté d'avancer sur la question. Donc, c'est intéressant aussi. Donc je pense que c'est un message fort. Lorsque des présidents sont prêts à se mobiliser sur la thématique, après à jouer le jeu aussi de pas être là pour vendre leur entreprise mais plus pour s'interroger au milieu d'un collectif, c'est très intéressant. Ça reflète aussi, je pense, la diversité de la salle, c'est-à-dire que globalement les personnes visées pour ce colloque sont les entreprises, mais je dirais dans leur diversité, c'est-à-dire les entreprises publiques ou privées et leurs partenaires, tous les acteurs qui peuvent les appuyer, les accompagner, les soutenir sur ces problématiques-là. Donc c'est l'entreprise par ses dirigeants, les entreprises par tous ses professionnels des ressources humaines et des missions handicap, l'entreprise par ses médecins du travail, et puis par tous les appuis qu'elle a autour, c'est-à-dire les MDPH, les services de santé en psychiatrie, les services d'accompagnement à la vie sociale, les associations d'usagers, les personnes elles-mêmes concernés, et de se dire que tout ce petit monde-là, dans toute sa diversité, va être dans la salle. Donc, je pense que la rencontre, elle va être aussi dans la salle.
Oui, comme vous aviez dit, c'est pas toujours facile de trouver à quel réseau s'adresser. Ben, au moins, là, ils pourront se confronter leurs idées, se rencontrer, en discuter aussi.
Voilà. C'est l'idée, c'est de favoriser cette rencontre-là. Et que ce soit le spectacle soit aussi dans le public et dans la salle. Il y a des temps de questions aussi qui sont prévus à la fin de chaque thématique. On est bien dans une journée d'échange. On n'est pas en train de déverser un savoir à sens unique.
C'est-à-dire, ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire que quelquefois, maintenant, il y a presque autant de questions que de temps de parole, ce qui est très important, parce que souvent, les questions sont aussi intéressantes que l'exposé qui vient d'être fait.
Tout à fait. Et alors, par contre, je vous invite à vous inscrire pas trop tard, parce qu'il y a déjà plus de 300 inscrits. Et l'amphi n'est pas extensible, donc voilà, c'est juste comme ça va très
et
vite.
L'amphi fait combien de places
pour 500 places.
Oui, donc ça va vite. Oui.
Donc là on est déjà à presque 350, donc voilà, c'est à savoir.
Hein. Et vous, alors votre parcours, comment vous êtes arrivé à faire tout ça? Parce que moi je le sais, mais les auditeurs ne le savent pas.
Écoutez, quoi dire là-dessus, c'est...
Parce que c'est pas parti comme ça. Moi, quand je vous ai rencontré, vous étiez, bon, c'est pas un secret, à la SNCF, vous travaillez avec un chargé de mission, mais c'était pas parti dans ce sens de s'occuper de la santé mentale.
Pas du tout. C'est vrai que moi, je connaissais pas. J'étais plutôt sur le handicap en général, l'insertion professionnelle. J'ai fait des études de sociologie et puis un DESS de ressources humaines à Sciences Po. Donc, j'étais pas tellement disposée à faire ni de la recherche ni à travailler en tout cas sur les questions de santé mentale. J'étais plus sur le handicap et l'insertion professionnelle. J'avais déjà travaillé auparavant sur la légitimité des politiques en faveur des personnes handicapées dans les entreprises, mais tout handicap confondu, et puis sur l'insertion professionnelle de jeunes sourds en formation professionnelle. Donc j'avais pas cette connaissance des questions de santé mentale. Et c'est vrai que en étant à la SNCF avec Bernard Cognat, qui était à l'époque chargé de mission handicap, j'ai eu la chance de rencontrer la revue donc la revue Être Handicap Information, où vous aviez cet intérêt.
Nous, on était passionnés par le sujet.
Voilà.
Et avec les... un centre de formation pris dans la revue, donc là, c'est vrai qu'on est en plein dedans.
Ouais. Et c'est vrai que vous m'avez ouvert la porte des entreprises en explorant ce thème, en disant il y a un besoin d'aller regarder, d'aller chercher, de travailler sur cette question, cette problématique-là de la santé mentale. Et donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par 5 entreprises qui étaient EDF, la SNCF, Total et IBM, 4 entreprises, et Air France, excusez-moi.
Air France, oui.
Et qui ont soutenu à la fois mon travail à la revue et puis mon travail de recherche, avec vraiment, je dois les féliciter, il me semble, de leur approche.
Ils ont toujours été passionnés.
Ils ont été très impliqués au cours des 3 années de recherche en thèse, ce qui n'était pas évident. Ils ont joué le jeu aussi de m'ouvrir leurs portes. Hein. C'est-à-dire que j'ai été libre à la fois à la revue et dans les entreprises.
Ouais.
D'aller faire un travail d'observation, d'entretien, pour mieux comprendre ce qui se passait pour les personnes.
Comme quoi, ils avaient bien envie d'avancer.
Et tout à fait. Et c'est vrai qu'ils étaient pionniers quand même.
Oui,
ils étaient assez pionniers de suivre la revue sur cette problématique-là. Et moi, j'ai découvert à cette occasion toute la richesse de cette thématique, et notamment la richesse des personnes et puis de toutes ces questions qui finalement renvoient chacun de nous à sa propre expérience, à ses propres moments de vie, à sa propre fragilité ou excentricité de psychique,
ses propres forces aussi qu'on arrive à puiser quand même.
Exactement. Et du coup j'ai découvert cet univers-là grâce à ce travail de thèse.
Et alors, vous avez accouché en même temps de votre thèse, si je me souviens bien, c'était intéressant.
Le bébé dans l'année,
c'était, voilà. C'était très juste. C'est la thèse
qui est
venue d'abord.
J'ai pas toujours eu péridural, hein.
Non, mais c'est la thèse d'abord.
La thèse est venue d'abord, et puis après, il y a eu un petit bébé qui est né dans l'année.
Ouais.
Donc ça, c'était...
C'est une année riche.
C'est une vraie richesse, et puis on s'aperçoit que c'est une vraie richesse aussi de faire un travail de recherche aussi long, aussi poussé, aussi approfondi. Sur cette question-là, je ne sais pas si au cours de ma carrière, j'aurai toujours l'occasion d'approfondir cette thématique-là. Et puis à la fin de ma thèse, j'ai été sollicitée par l'agence Entreprises et Handicap qui réfléchissait à la question du handicap psychique et du coup a retrouvé ma thèse et m'a demandé de venir les aider sur cette thématique-là. Et puis ils travaillent sur d'autres thématiques, pas uniquement le handicap psychique. Mais c'est par le biais du handicap psychique qu'on s'est connus, et puis maintenant je travaille avec eux sur toutes les problématiques du handicap dans l'entreprise, toutes les questions du handicap dans l'entreprise.
Bah merci beaucoup Claire.
Merci.
Alors
vous.
On va sûrement se retrouver le 29 avril
avec
et puis pour d'autres sujets parce que je suis sûre que vous en ferez encore d'autres choses après. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.